Bonjour calypsoniens et calypsoniennes, bienvenue dans le coup de cœur de Calypso. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Un monstre est là derrière la porte de Gaël Bellem, paru en mars 2020 aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir. Un monstre est là derrière la porte est le premier roman de Gaël Bellem. Gaël Bellem donc est une réunionnaise et c'est la première romancière réunionnaise à être publiée chez Gallimard. Pour son premier roman, elle a obtenu le grand prix du roman métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis, ainsi que le prix André Dubreuil du premier roman. Un monstre est là derrière la porte dépeint l'histoire des Dessintes, une famille réunionnaise très modeste, durant les années 80. L'auteur dépeint les personnages avec beaucoup d'humour et sur un ton assez acerbe. Grâce à son ton et à ses expressions, le lecteur est immédiatement plongé dans l'atmosphère de la Réunion avec ses personnages mythiques, tels que Grand-mère Cal, Bébête Toute, Citarane, par exemple. Osais-je pleurnicher ? Citarane, buveur de sang invétéré, faisait sa ronde au même moment et Dieu sait à quel point il adorait les petites couineuses à barrette. Jouer sur le palier la nuit tombée ? Grand-mère Cal devait faire le guet à cette heure-là. Et pour me prouver qu'il parlait en adulte avisé et plein d'expérience, les Dessintes m'installaient sur leurs genoux et me racontaient patiemment pour la énième fois les mésaventures de notre famille et de ses nombreux nourrissons morts. À la fin du livre, un glossaire explique toutes les expressions et mots particuliers à la Réunion. Donc, par exemple, pour Citarane, nous avons Citarane, travailleur engagé d'origine mozambicaine. Il multiplia assassinats et vols dans divers endroits de l'île sur fond d'actes de sorcellerie. Il terrorisa la Réunion de la fin du XIXe siècle et en reste une des grandes figures de terreur. Sa tombe fait l'objet de cultes nocturnes hebdomadaires. Un Jack l'éventreur des tropiques, la sorcellerie en plus. Ou alors pour Grand-mère Cal, nous avons comme explication « Créature monstrueuse qu'aucun réunionnais n'a jamais vue, mais que tout le monde sait plus ou moins décrire, certainement une vieille sorcière édentée, aux ongles démesurément longs et tranchants, idéale pour charcuter les petites filles. » Ou encore pour Bébête Toute, créature diabolique qui hante l'île depuis la nuit des temps. Mieux vaut ne pas la croiser. Changer de trottoir ne suffit pas. Donc ainsi, à part les personnages mythologiques de la Réunion, nous avons également tous les plats et fruits et légumes typiques de l'île, ainsi que les musiques, Sega, Maloya. Donc le lecteur d'origine réunionnaise aura beaucoup d'éléments qu'il connaît et le lecteur qui n'est pas d'origine réunionnaise pourra se plonger avec délectation dans cette ambiance. Dans ce roman, le lecteur a également des éléments historiques sur l'île de la Réunion, comme par exemple l'arrivée des Cafres, des engagés indiens, des Comoriens, des Malgaches, des Mauriciens. Le lecteur a ainsi une vision de la multiplicité de la culture réunionnaise. On a, par exemple, l'image du sorcier qui est appelé Devinaire. Donc l'explication dans le glossaire dit « Devinaire, sorcier local ». En bon devin, il est censé deviner bien des choses, l'avenir autant que le passé et le présent, en plus de trouver la solution aux problèmes de ses clients. Donc je vous lis un extrait du livre. Dès lors, impossible de se débarrasser de cette glu de devine sans un bon devinir. On rassemble ses économies, on fait même un petit carême, et finalement, on y va un matin, avant 5 heures, persuadé de ne croiser personne, bien décidé à chasser définitivement ce fait noir, dans lequel une belle-sœur envieuse, un frère jaloux, une maîtresse éconduite, un collègue moins apprécié nous a plongés. Mais on arrivait toujours dans une cour déjà pleine de monde, d'où montait une odeur d'encens et de bouc, sur fond de musique de chapelle ou de tam-tam africain. À votre arrivée, 8 ou 9 chaises sont déjà occupées. Ici par quelques convulsionnaires, là par une femme atteinte de la goutte, à côté d'elle pleurniche une autre, abandonnée dans son 6e mois de grossesse par son mari qui lui préfère la lycéenne d'au-dessous. Plus loin murmure un petit groupe d'hommes qui pour l'un veut faire mal à son patron parce que trop c'est trop, l'autre veut ouvrir un snack et s'assure qu'Asmodée lui sera favorable. Le dernier espère échapper à cette condamnation qui lui pend au nez depuis qu'il a, en état d'ébriété, mais après n'avoir fumé que deux malheureux petits joints, foncé sur trois ou quatre adolescents qui avaient eu la drôle d'idée de commander un pain bouchon gratiné à la terrasse d'un café alors qu'il était clairement écrit qu'il ne restait plus que du pain au thon maïs. Si ces crétins avaient lu l'écriteau, ils ne seraient pas là à négocier à l'aube le prix d'une poule noire et d'une remise de peine. Ainsi va la vie réunionnaise, de peine en envoûtement, de petite vengeance en grande supplique, d'ex-voto en invocation où gallinacé, citron galé, portrait en couleur et poignée de gros sel sécurisent l'avenir bien mieux que n'importe quel plan épargne retraite. À dire vrai, une fois le devineur payé, il ne reste plus grand-chose pour une quelconque épargne, mais il vaut mieux essayer que mourir dans le doute. Donc revenons à notre famille Les Dessaintes. L'auteur Gaëlle Bellem a elle aussi grandi à Saint-Benoît, mais pas dans une famille torsionnaire comme Les Dessaintes, qui sont des véritables Rougon-Macquart de la Réunion. L'auteur a choisi le nom de Dessaintes afin qu'il soit totalement à l'opposé de cette famille, qui sont de véritables voleurs, bandits, escrocs, en fait tout ce qu'il y a de pire à la Réunion. Pour commencer, c'est une famille de personnes peu portées à l'instruction. Je cite l'auteur. Exit la science et ses algorithmes compliqués, les digressions savantes et leur gang de chercheurs barbus. Dans la petite ville de Saint-Benoît, plus précisément au 21 rue René Descartes, que Les Dessaintes écrivaient évidemment en trois mots, la simple vision d'un livre suffisait à faire se dresser leurs poils, un agacement mortifère et une inévitable somnolence. Bienvenue à la Réunion des années 80, tas de gravats du bord du monde, où les pires superstitions humaines, chassées par les courants du scepticisme européen, trouvaient enfin un rivage assez poreux où s'échouer, prendre racine et couvrir de leur ombre d'épouvante un peuple borné et crédule jusqu'aux viscères. Le roman pose ainsi le constat, amer, d'un horizon totalement bouché, d'une jeunesse sans perspective, si ce n'est celle d'ouvrir un snack bar. Il y a l'idée du déterminisme social, d'une véritable misère sociale, mais tout cela fait avec beaucoup d'humour dans l'écriture. Exemple. Coincé entre les paysages de montagne et l'éternité de la mer, on vivotait, plaisantait souvent, mais on aimait par-dessus tout se sublimer d'ennui doré par le soleil. Faire deux ou trois enfants, allumer la télé, trouver une petite clé. Qu'y avait-il d'autre à faire dans cette île perdue de toute manière ? La vie, quoique bordée de violentes amertumes, s'épanchait lentement et avec moins de chaos, semblait-il, que dans la lointaine Europe. Il valait mieux rester et entreprendre quelque chose ici. Mais quoi ? À vrai dire, la réflexion dura un an, le temps de mon emploi vert. Quelques jours, avant la fin officielle du contrat, après avoir triomphalement franchi une allée de banquiers, de conseillers en insertion et de devineurs mafieux, nous décidâmes de reprendre un snack bar en perdition sur le front de mer, là même où j'élaguais chaque matin. Ouvrir un snack bar, c'est tout ce qui était à notre portée de toute façon. Et puis, avec eux, le succès est systématiquement au rendez-vous. Gaëlle Bellem dépeint des parents qui ne semblent pas du tout vouloir que leurs enfants sortent de cette situation. Donc nous avons vraiment l'idée du déterminisme social. Un autre exemple. Rue René Descartes, pour empêcher leurs enfants d'aller à l'école, les parents mettent au point le meilleur des stratagèmes. Ils rédigent volontiers les billets d'excuses, et ce, jusqu'à la dernière année de lycée. Si jamais quelqu'un va au lycée. « Ne va pas à l'école si tu n'en as pas envie », dit mon père dès qu'il ouvre la bouche. « De toute façon, ça ne sert à rien. Donc j'y vais deux fois plus, me réveille deux fois plus tôt, fin avoir de haïr les vacances, juste pour le contrarier. Chaque matin, à l'angle de la rue, je guette avec impatience l'arrivée d'un tas d'enfants noirs ou métis, aux allures d'orphelins, les yeux encore brillants de sommeil, les cheveux mal peignés, les pieds immanquablement prisonniers d'affreuses spartiates en plastique beige. Tels des fourmis attirées par une sucette oubliée, ils déboulent de tous côtés et envahissent un arrêt d'autobus désaffecté. » Donc la narratrice qui, selon ses propres dires, a honte de ses parents, cherche par tous les moyens à sortir de cette situation à travers l'école. Elle réussit même à avoir une mention très bien au bac, mais n'obtient pas pour autant les félicitations de ses parents. Je cite le livre. « Ce fut une première victoire arrachée à la pingrerie du destin. Une mention très bien, l'admiration de tout un quartier, l'éloge de mes vieux professeurs, récompense de semaines entières de labeur assis sur une terrasse, exposé tantôt au vent, tantôt à la musique, tantôt à l'infernale fanfare de la télévision, à se farcir le crâne jusqu'à l'usure de guerre civile, mondiale, sous-marine, froide, atomique, de mouvements de position de tranchée. Quelle douleur pour un seul diplôme! Quel torrent de solitude pour un unique jour de reconnaissance! Pendant les révisions, des crises d'angoisse m'avaient noyé sous une ondée de larmes. Et comme tous les élèves enflammés du désir de confidence, d'indulgence et de consolation, j'allais chercher du courage auprès de mère. Une mère, juste une fois, un seul jour. Pas de l'amour, un peu de pitié, une part infime, une toute petite part, comme ça. Est-ce trop demandé? Pour tout réconfort, ce fut une avalanche de cris, de reproches et de déceptions. Je n'avais qu'à tous les envoyer se faire foutre, professeurs écaillés, fils de pute élevés au bordel et avec leurs chiffons bavant l'encre me torcher le cul. Qu'avais-je donc à toujours briguer ce qui me dépassait? Quelle merde! Quand comprendrais-je que tout cela n'était pas pour nous? Laissons cela, livre et stylo, à leurs pédés de fils ou à ces zoukeurs d'Antillais. Les Antillais devinrent effectivement meilleurs écrivains que nous, puisqu'on ne les cassait pas en mille morceaux dès qu'ils étaient en âge de tenir un stylo. Mais ceci est une autre histoire. Donc, nous voyons que le récit de Gaël Bellem pourrait être vraiment triste en raison du propos. Mais le ton plein d'humour et l'écriture sans concession amène le lecteur à sourire, voire à rire franchement. Il semble donc qu'on puisse rire de tout. Mais nous pouvons nous demander, en fin de compte, qui est ce monstre? Pour les parents de la narratrice, le monstre est la narratrice elle-même. Il ne cesse de la terroriser et il ne s'occupe pas d'elle. D'ailleurs, il ne voulait pas avoir d'enfant et encore moins avoir une fille. Je cite le livre. « Rien à faire. Il lui ôta l'enfant des mains et le regarda bien en face. A priori, tout allait bien. Et il mit tout cet inutile verbiage sur le compte de l'habituelle niaiserie des bonnes femmes en couche. Jusqu'à ce qu'il découvrit ce qu'il nomma la sainte horreur. La chose, c'était une fille! À ce moment, il y eut comme un violent coup d'orage et l'enfant lui tomba des mains. Certes, sa mère était une fille, sa grand-mère aussi, et sa femme en était une par certains aspects. Mais cela n'a pas vocation à se répéter. Tonnerre de sort, pesta-t-il en s'essuyant les bras. Passe encore un pitbull, un girafon, un cheval à trois jambes ou une grosse blatte. Mais une fille! C'est comme élever un mongolien. Tout ça pour économiser 20 francs d'échographie. Alors, un homme juste qui ne manque pas d'assumer ses déboires, il m'offrit un berceau mais me refusa son nom. Les 5 années suivantes, je les ai passées avec un air grave et sombre, c'est-à-dire en hurlant de toutes mes forces, la nuit de préférence entre 3 et 4 heures du matin. En vérité, je ne pleurais pas. Je me vengeais dans mon premier bain, d'où me vient, ma foi, ce caractère bien trempé. Ici commence donc mon histoire, en même temps que ma chute. Qu'ils furent malheureux, ces misérables desseintes, avec une pisseuse à hocher dans leur salon. Eux qui s'attendaient à un petit mâle, bien comme il faut, au caractère tyrannique et à l'instinct querelleur. Un parfait imbécile, en somme. Au lieu de cela, le ciel leur envoyait une infatigable pleureuse édentée, comme il en grouillait tant dans la rue Descartes. C'est donc à ma naissance que mère commença à grossir et père à fumer. Donc ainsi nous comprenons que les parents de la narratrice n'avaient nullement envie d'avoir une fille et que pour eux c'est vraiment le pire du pire, notamment pour son père. Il ne cesse de la terroriser. Il prétexte qu'un monstre se trouve derrière la porte pour qu'elle ait peur et pour l'effrayer. C'est ainsi que nous avons tous les monstres du folklore de La Réunion que j'ai cités au début, donc Bébête Toute, Citarane, etc. Le monstre peut également être compris comme la misère sociale, la situation dans laquelle se trouvent ces familles de la rue Descartes. C'est une situation terrible que tous souhaitent cacher une fois que leur porte est refermée, afin que personne ne soit au courant, même si tout le monde est dans la même situation. À un moment, la narratrice cite d'ailleurs ce tabou dont on ne parle jamais, qui amène chacun à en être obsédé. Donc la misère sociale est également le monstre dans ce livre. Et nous avons donc le déterminisme social aussi, c'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on grandit dans une famille, on ne puisse pas réussir à s'en sortir. Du moins, c'est ce que semble dire la narratrice. Je cite une autre partie. « Que faisais-je avec un couteau ? Je l'ignore. Je suis une descente, c'est comme ça, un point c'est tout. Sans cette foule animale, sûrement l'aurais-je égorgée. Pourquoi arrêter ? Qu'on me laisse être charogne jusqu'au bout, puisque je ne suis crédible dans aucune autre peau. Qu'aurais-je voulu tuer en vérité? ce refus d'admettre que l'on peut être autre que ce qu'ils imaginent, ils finiraient par me faire perdre la foi. Pas en Dieu. Ce vieil autiste impuissant n'a jamais reçu une seule prière de mon désarroi. Perdre la foi en soi. Ne plus se croire capable de quoi que ce soit. Hormis se vautrer dans le mensonge, le vol, la colère et la saleté. Pourquoi essayer ? À cause de ce vague instinct ? Cette contraignante pulsion de vie et de bonté enfouie sous le tas de boue ? Jamais 203, prêche-t-il. Ils n'ont donc commis qu'une faute, ceux-là. À moins que ces prédicateurs de la défaite ne parlent en connaissance de cause. On ne change donc jamais. Alors leur propre cas est désespéré. Mes crimes à moi sont innommables et innombrables. Il serait plus simple de parler de ce que je n'ai pas encore commis. Mais tous les jours, personne ne réessaie autant que moi. Donc malgré toute sa bonne volonté, on sent que la narratrice est irrémédiablement prisonnière de cette situation, prisonnière de sa famille, et elle ne réussit pas vraiment à sortir de ce contexte. Nous avons donc réellement ici le problème du déterminisme social. En conclusion, il faut lire « Un monstre est là derrière la porte » de Gaël Bellem, car c'est un roman très riche qui, sous couvert d'humour, pose beaucoup de questions importantes sur la Réunion des années 80, qui a changé, heureusement. Le roman parlera à la fois aux Réunionnais, qui retrouveront donc l'ambiance de l'île qu'ils connaissent, avec également beaucoup de parties en créole réunionnais, et le roman parlera également aux non-réunionnais qui découvriront avec plaisir cette île, ses personnages mythiques et une certaine réalité loin des clichés habituels. Nous espérons que ce roman coup de cœur de Calypso vous plaira. Ce podcast a été réalisé par Labcast. Merci à vous, calypsoniens et calypsoniennes, d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouveau coup de cœur.